Lumière sur une pionnière de la photographie. Marie-Alice Dumont, c'est un article que vous avez trouvé dans Le Devoir, cher Serge.
Publié le 8 janvier, un article de Jean-François Nadeau. Alors, restée dans l'ombre du grand récit de l'histoire de la photographie, Marie-Alice Dumont occupe aujourd'hui sa place dans l'histoire du patrimoine visuel québécois. Née en 1892 à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, cette femme est considérée comme la première à exercer la photographie professionnelle dans l'Est du Québec. Elle compte, parmi les premières au Canada, à opérer seule un studio. Une exposition itinérante, ainsi qu'une présentation virtuelle de son travail, gracieuseté du musée du Bas-Saint-Laurent, promettent de la faire mieux connaître pour le public. Cette redécouverte s'inscrit aussi dans un effort plus large de réévaluation du rôle des femmes dans l'histoire de la photographie, elles qui ont longtemps été reléguées aux marges des récits dominants malgré leur présence active et durable. Il reste plein de mystères autour d'elles, affirme la conservatrice Oriane Asselin van Coppenol. Elle est décrite par certains comme marginale, un peu spéciale. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire dans la société? Nous avons 250 000 photographies au musée et celles de Marie-Alice Dumont, environ 10 000 photos, sont les seules qui soient l'œuvre d'une professionnelle. Les autres, c'est des photographies amateurs. Dans les années 1920, Marie-Alice Dumont s'installe un studio dans la maison familiale. Dans une entrevue filmée en 1981, elle affirmait que c'est parce qu'elle n'était pas capable de faire de la grosse ouvrage que son frère, prêtre au collège de Saint-Anne-de-la-Pocatière, l'avait poussé vers la photographie. J'ai essayé de retrouver l'entrevue. J'ai fait des recherches hier, puis j'ai rien trouvé. Ben ça doit exister, là, mais c'est pas sur YouTube ou sur le site général d'Internet. Le père.
Je m'excuse, j'ai ri. J'essayais de vous aider, mais je ne savais pas trop où vous alliez.
Ben moi, quand je fais une recherche, je vais sur Google, puis
ouais.
Je tape.
Oui, oui.
Puis là, je vais voir après ça sur
Google,
YouTube.
Google ne connaît pas ça? Google? Un moteur de recherche? Mais non, je n'y ai
hey.
Mais il faut continuer les recherches. Hein. Quelquefois, ce n'est pas nécessairement si évident que ça.
Ouais.
Mais continuez votre lecture, très cher.
Alors, le père prend l'engagement de sa fille envers la photographie très au sérieux. Il va réaménager la maison pour installer une grande baie vitrée spéciale afin qu'elle puisse éclairer au milieu ses sujets. Un bon papa. Sa carrière de photographe s'étendra sur plus de 3 décennies. Elle utilise notamment un appareil de table à soufflet de grand format avec un objectif qu'elle avait fait venir d'Angleterre au prix fort. Qu'est-ce que cette célibataire endurcie photographie? La vie du village, les graduations, les processions, la religion, les vivants et les morts. Des portraits de studio également. À la différence des autres photographes de la région, la lumière semble plus douce chez elle. Il y a une attention, une approche particulière, affirme Olivier Guimont. Les recherches de cet historien ont conduit à la réalisation d'une exposition virtuelle différente de l'exposition itinérante. L'exposition virtuelle, on peut la voir encore sur... Vous tapez Google, vous tapez le nom de la dame. Et puis, l'exposition itinérante, elle était au mois de... tout l'été dernier, 2025, mais ils ont comme projet de la faire, de la présenter à travers le Québec.
Ah oui.
Il n'y a pas de date encore, mais il faut surveiller pour la voir. Ça sera sûrement très, très intéressant de l'en voir. L'exposition itinérante se veut plus près du travail de création, explique Oriane Asselin van Coppenol. Nous misons sur un dialogue entre les photographies de Marie-Alice et celles de l'artiste Raymond April. S'intéresser aujourd'hui à Marie-Alice Dumont, c'est accepter de déplacer le regard, de quitter les grands récits héroïques pour reconnaître la valeur documentaire, sociale et mémorielle d'un travail enraciné dans la vie de tous les jours, loin des grands événements. C'est aussi comprendre que l'histoire de la photographie ne se construit pas uniquement dans les capitales culturelles, mais aussi dans les villages, les studios modestes et les archives paroissiales, qui sont très riches. Comme femme, elle a accès à un univers intérieur où les hommes seraient moins bien accueillis. C'est d'ailleurs pour cela, en bonne partie, qu'on s'est d'abord intéressé à elle très souvent, explique l'historien Olivier Guimont. Son regard précis témoigne d'un rapport direct au réel, d'un ancrage au monde paroissial qui est le sien. Cette apparente modestie de l'entreprise de Marie-Alice Dumont constitue précisément l'un des angles morts de l'histoire de la photographie, longtemps écrite à partir de critères esthétiques, héroïques et masculins. C'est certain que je fais de Marie-Alice Dumont une lecture plus féministe, explique la conservatrice Oriane Asselin van Coppenol, avec de la joie dans la voix. Elle rappelle que les femmes ont souvent occupé des positions périphériques, produisant des images jugées mineures, ancrées dans le quotidien, le domestique ou le local. Or, ces espaces, le village, la famille, la communauté paroissiale, sont aussi des lieux de pouvoir, de transmission et de mémoire.
Ils en disent beaucoup.
Oui. Il y a peu de mentions jusqu'ici au sujet de Marie-Alice Dumont. Pourtant, son fonds d'archives est exceptionnellement riche. J'espère que notre travail va faire comprendre que son fonds d'archives est important et mérite d'être considéré, commente l'historien Olivier Guimont. Au 19e siècle, sans doute près de 200 femmes auraient tenu des studios de photos au Canada. Installée près de l'église Notre-Dame à Montréal, une certaine Madame Fletcher y exploite en 1840-1841 un studio de photos. La photographie, ça remonte quand même assez loin, hein? C'est pas juste fin du 19e, c'est vraiment au milieu du 19e. Les photographies de Marie-Alice Dumont s'imposent désormais comme un jalon essentiel de l'histoire visuelle régionale et comme un exemple marquant de la contribution des femmes à la mémoire collective du Québec. Le livre que nous avons fait paraître au musée permet de découvrir une femme d'exception, assure la conservatrice. La directrice générale du musée du Bas-Saint-Laurent, Mélanie Girard, se félicite pour sa part d'avoir présenté l'œuvre de cette photographe dans son établissement à l'occasion d'une nouvelle exposition. Cette exposition va donc circuler un peu partout au Québec, assure-t-elle. Les lieux d'accueil de cette exposition itinérante ne sont pas encore connus officiellement. Ils seront bientôt annoncés sur le site web du musée du Bas-Saint-Laurent. En attendant de voir les tirages authentiques proposés en divers lieux, le public peut compter sur l'exposition numérique qui l'accompagne ainsi que sur le catalogue que le musée lui a consacré. Je suis allé hier, j'ai regardé l'exposition numérique, c'est vraiment bien, il y a des très très belles photos.
Ouais.
Et vraiment du monde rural, hein, et c'est ça qui est beau, le beau souvenir. Moi j'aime bien ça parce que mes grands-parents étaient cultivateurs, alors c'est un beau souvenir quand je vois ça, ça me rappelle plein de choses.
Oui, j'imagine. Ouais. Mm-hmm. Et le catalogue dont vous parliez, on peut se le procurer, j'imagine, sous la direction d'Olivier Guimont. On parle pas ici du comédien là, qui nous a...
Non.
Oriane Asselin van Coppenol, musée du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup. Je vois qu'il compte 196 pages.
Oui.
A été publié en 2025.
Oui. Mm-hmm. Alors, imagine qu'on peut le commander par en envoyant un message au musée là, ou dans les... Peut-être Renaud Bré aurait ça.
Peut-être que non. Ouais. Alors, vous ferez une recherche pour nous,
oui.
Serge. On compte sur vous pour nous donner les réponses. Pour l'instant, bien, je présente le texte que vous avez lu. On pourrait redonner le titre pour les auditeurs auditrices, Lumière sur une pionnière de la photographie,
ouais.
Marie-Alice Dumont, et donner le crédit aussi à celui qui a écrit cet article publié le 8 janvier 2025, Jean-François Nadeau. Alors, ben là-dessus, on se dit au revoir. À moins que vous ayez une brève pour nous avant de nous quitter.
Oui, j'en ai. Le pantalon, ça vient d'où?
Le pantalon.
Cet habit est apparu. Cet habit.
Isabelle a posé une question.
Oui.
Oui.
Moi, non, le mot ou l'objet?
L'objet.
J'ai aucune idée.
C'est apparu en Chine. Entre le 13e et le 10e siècle avant Jésus-Christ.
Made in China.
Oui.
Oh, OK.
Composé de deux rectangles évasés et d'un renfort à l'entrejambe, il sert à améliorer le confort des cavaliers, probablement échaudés par de longues et douloureuses chevauchées en pagne. Le pantalon mettra du temps à s'imposer en Occident. Dans l'Antiquité, grecs et romains le jugent ridicule et vulgaire, tout juste bon à vêtir les barbares. Au 16e siècle, les aristocrates portent des chausses reliées par une braguette, un modèle qui inspirera leurs culottes au siècle suivant. Les classes populaires adoptent pour leur part une version plus simple et pratique du pantalon, assez proche de sa forme actuelle. Ces sans-culottes, comme on les surnomme durant la Révolution, finiront par faire des émules. À partir des années 1830, tous les hommes, riches ou pauvres, portent le pantalon. Les femmes, elles, devront attendre les années 1960.
Eh oui.
C'était pas, elle, c'est indécent, là, une femme qui portait le pantalon. Là.
Est-ce que vous êtes plus pantalon que jupe ou robe, Isabelle?
Ah, définitivement, oui, j'aime beaucoup mieux les pantalons. Ouais. Quand je porte une robe, maintenant, j'ai tout le temps des leggings en dessous parce que je... Je sais pas. J'aime me sentir enveloppée, j'imagine.
Oui.
Mais c'est plus, on se sent plus libre aussi qu'avec une robe, c'est certain.
Je vous comprends. Je suis pas mal dans votre équipe. Alors là-dessus...
Ah, oui, j'ai un Kleenex, l'origine du Kleenex.
Oui, le Kleenex, ben ça, c'est une marque, là, le
oui.
mouchoir.
Non, mais le principe du Kleenex.
OK.
Oui. J'y vais.
Allez-y, avant qu'on éternue.
Tout débute avec la Première Guerre mondiale, lorsque l'entreprise Kimberly-Clark met au point un papier crêpe qui sert de filtre pour les masques à gaz.
Oh.
À la fin du conflit, la société américaine recycle son innovation et suit la marque Kotex, la transforme en serviette hygiénique. Sans succès, rendu plus doux et plus fin, le produit est de nouveau commercialisé en 1924 sous le nom de Kleenex. La cible, les femmes toujours, mais cette fois pour le démaquillage. 5 ans plus tard, le directeur de la recherche, enrhumé, utilise un Kleenex pour se moucher. Comme ça, il utilisait ça. C'est une révélation. Il abandonne définitivement son vieux mouchoir en tissu, un geste que vont adopter la suite des millions de consommateurs à travers le monde.
Bon, alors là-dessus, je vous dis un grand merci, Serge Bradin ainsi qu'Isabelle Falardeau. Passez du bon temps avec mon collègue Denis Martin Chabot qui sera avec vous dans les prochaines semaines.
Voyez. Oui.